kasher oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est une de vos combattants au Katanga. Je pense qu'on peut, en conjuguant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs, votre espace d'échange citoyen. Dans un communiqué de presse publié la semaine dernière, l'UNICEF estime à 2 millions le nombre d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë et sévère en RDC. Pour réaliser sa réponse humanitaire 2017, l'UNICEF lance un appel de fonds pouvant lui permettre de fournir une assistance à usage multiple auprès des millions de personnes déplacées et accueillies comme réfugiées en RDC. Comment réagissez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-6315 pour intervenir en direct dans ce magazine. Sylvain Matundu est à la mise en onde, J.R. Longuembo est à la réalisation et coordination de ce magazine. Pierrot Elamejiu vous le présente sous la supervision de Martin Sobujango, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
La question de la malnutrition a été toujours considérée comme un enjeu de développement national en RDC parce que la malnutrition contribue à perdre 2 à 3% du produit intérieur brut et la plupart, ce sont les enfants de moins de 5 ans qui souffrent de cette malnutrition chronique en République démocratique du Congo. Plusieurs années, des rapports indiquent cela. Alors comment arriver à remonter, et l'UNICEF estime qu'il faudrait mobiliser assez de fonds pour pouvoir fournir l'assistance non seulement à plus de 2 millions d'enfants qui sont concernés par cette question de malnutrition aiguë et sévère, mais aussi faire face à d'autres personnes qui sont dans des situations difficiles, des situations de déplacement, mais aussi ceux qui sont accueillis comme des réfugiés qui sont concernés par cette question de malnutrition. Et dans votre milieu, comment arriver à remonter la pente et à faire face à cette question? C'est au centre de l'échange d'en parole aux auditeurs. Plusieurs provinces de la RDC sont concernées par cette question, que ce soit le Kasaï central, le Kasaï oriental, mais aussi le Kasaï et d'autres provinces. Alors, comment conjuguer les efforts et arriver à bout de cette question de la malnutrition? C'est la question au centre de notre échange dans cette émission Parole aux auditeurs. Je rappelle encore que vous pouvez intervenir en direct à nous appelant au 081-890-6315. Je crois qu'on aura vous aurez peut-être des difficultés pour pouvoir nous joindre à cette ligne, mais d'un moment à l'autre, la ligne sera disponible pour pouvoir nous joindre. 081-890-6315 pour intervenir en direct.
Radio Capi fête ses 15 ans d'existence avec ses auditeurs dans Au Capi Service. Participez nombreux à l'émission spéciale ce vendredi 17 février 2017 de 9h à 11h heure de Kinshasa. Au programme, témoignages sur l'impact de Radio Capi en RDC ainsi que vos propositions pour l'avenir. Écrivez-nous déjà à l'adresse suivante, service@radiocapi.net. Merci de poster également vos réactions sur la page Facebook du magazine Au Capi Service. Les 15 ans de Radio Capi, ça se fête avec vous en direct ce vendredi 17 février de 9h à 11h dans Au Capi Service.
Rappelons que vous pouvez nous joindre au 081-890-6380 pour vous inscrire à intervenir en direct. Merci d'être avec nous. Peut-être si vous avez des difficultés à nous joindre au 6315, vous pouvez composer le 081-890-6380 pour intervenir en direct dans ces magazines consacrés à la problématique de la malnutrition. Adrien, merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Kaninga au Kasaï central. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Pierrot Lamégie, bonjour à tous les amis auditeurs.
On vous écoute, comment arriver à bout à cette question de malnutrition qui touche près de 2 millions d'enfants en RDC?
Oui, merci beaucoup Pierrot de la parole que vous m'accordez. Je pense que dans un premier temps, il faut d'abord dire que la demande de l'UNICEF, elle est bonne, mais en quelque sorte, l'UNICEF doit d'abord savoir anticiper les choses au lieu de subir les choses. Parce que dans beaucoup de cas, j'ai un exemple du territoire de Dibaya avec les situations difficiles que ce territoire-là a connues. Il y avait des intrants qui étaient disponibilisés par l'UNICEF via le gouvernement provincial. Mais vous allez prendre compte que ces biens-là n'ont pas véritablement profité à la population sinistrée. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord un travail en amont qui devait être fait. Premièrement, d'abord, pour commencer d'abord à sensibiliser la population qui était en fuite, qui était dans des forêts, et aussi voir qui était victime ou qui ne l'était pas. Mais dans ce cas, sur l'examen, nous sommes rendus compte qu'on est allé avec des biens vaille que vaille, et aujourd'hui, ce sont ces victimes-là qui commencent à nous appeler pour nous dire que donc, nous aurons appris qu'il y avait des biens qui étaient destinés pour nous, mais nous autres, nous n'avons pas touché. Donc, ça, moi, je pense que l'UNICEF devait d'abord commencer par ce travail que j'ai appelé anticipation, l'offre de 1. Deuxièmement, il y a aussi possibilité de voir déjà comment est-ce qu'il faut commencer à sensibiliser le bailleur des fonds. Parce que là, je ne condamne pas totalement l'UNICEF, parce que l'UNICEF dépend aussi le bailleur des fonds. Ce n'est pas pour rien vous dire. L'UNICEF a fait une demande de 2 millions quelques pour intervenir au sinistré. C'est comme ça que moi, je demanderais aux partenaires de l'UNICEF de mettre toujours ces moyens à temps. Hein, donc, bien avant à l'UNICEF pour que l'UNICEF fasse maintenant ce que nous lui demandons de faire. Parce que j'ai comme l'impression, comme l'UNICEF n'a pas donc, la politique de ces moyens entre ses mains, ça lui sera vraiment difficile de faire tout ce qu'il est en train de faire. Troisièmement, ça concerne maintenant le gouvernement. Il ne faut pas que le gouvernement puisse abandonner la responsabilité qui est la sienne entre les mains de partenaires qui viennent nous épauler, qui viennent nous aider, tu dirais que ce sont des bonnes fois. Le gouvernement doit d'abord commencer à faire des gestes par rapport à sa population qui est sinistrée pour voir qu'est-ce qui fait que la population soit appauvrie, qu'est-ce qui fait que la population soit sinistrée jusqu'à ce niveau où on parle plus de 10 millions. Est-ce que ce sont des espaces qui nous manquent? C'est là que la politique maintenant générale du gouvernement est importante dans le cas sur les années pour que le gouvernement puisse aussi initier certaines actions pour aider la population à se prendre en charge et pour voir aussi dans certains services de l'État. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités qui pouvaient faire à ce que la population puisse s'autoprise en charge. Maintenant, ce sont ces services-là qui font, donc qui mettent aussi de la barrière dans les chefs de la population. C'est comme ça que moi je dis que le gouvernement devrait aussi aider la population, parce que malgré tout, c'est lui qui est le numéro un, qui est le chef direct de la population, et c'est lui qui devrait jouer normalement les rôles. Parce que qui a dit vraiment que l'UNICEF restera là pour toujours? Qui lui a dit que le partenaire seront toujours là pour intervenir et pour aider l'État des peuples congolais qui lui restent mal nourris? Et donc c'est comme ça que moi je pense que le gouvernement devrait aussi apprendre à voir ce qui est comme responsabilité. Et pourquoi pas ne pas même s'associer avec l'UNICEF comme ceci le cas par rapport à ce que je vous ai dit sur les étoiles de Dibaya. On a dit l'UNICEF et le gouvernement provincial parlaient un même langage, même si pour les dispatchs maintenant, là, il y a eu un mystère caché qui plane jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça que cette collaboration-là...
Alors, pour vous, vous estimez que... Oui, vous intervenez en deux temps. D'abord, premièrement, pour la question des personnes qui sont en situation difficile, comme des déplacés, comme des réfugiés, où il y a ces plaidoyers pour avoir des fonds nécessaires, mais vous estimez qu'il y a un travail qui doit être fait dans les plans de contingence pour intervenir. Ça, c'est la responsabilité, comme on l'avait dit, de l'UNICEF. Mais si nous remontons à la première partie où on évoque la question des malnutrition, qui n'est pas peut-être aussi souvent liée à la situation de déplacés, parce qu'on connaît bien cette question des malnutrition dans beaucoup de provinces dans notre pays aujourd'hui, et là, vous estimez qu'il y a la responsabilité du pouvoir public à définir un plan pour faire face à cela. Mais quand vous regardez la situation aujourd'hui au Kassai, là où vous êtes, pensez-vous aujourd'hui qu'il y a assez d'efforts qui sont fournis dans les domaines de l'agriculture, par exemple, pour faire face à cette question de malnutrition, Adrien?
Oui, merci Pierrot pour la question des relances. Donc, si vous m'avez dit que je faisais allusion au service de l'État, c'est parce que je savais que je devais aboutir sur la question. Il y a des efforts, certes, qui sont fournis à gauche, à droite, mais nos amis, donc, cultivateurs, sont bloqués par trois causes majeures. La première cause, ce sont les multiplicités des taxes. Et donc, vous allez prendre compte que les produits qui doivent quitter, par exemple, Ilebo, Mweka, vers Kananga, ces gens-là sont obligés de payer deux fois, parce que ce sont deux provinces, c'est-à-dire vous commencez à payer par Ilebo et vous venez à Kananga, vous payez aussi. C'est pour ça qu'à l'époque, nous avons demandé, est-ce les deux provinces, les deux gouverneurs, ne devaient-ils pas se mettre d'accord pour voir en payant peut-être à Ilebo constituer certains pourcentages pour Kananga. Et puis deuxièmement, lorsque vous arrivez ici, il y a vraiment autant de services de l'État. Jusqu'à la fin que nos amis là, qui viennent pour aider la population, ils vous disent que nous sommes en train donc de perdre même notre argent, notre capital. Là c'est de un. Maintenant, une autre cause majeure, c'est l'inexistence des routes de desserte agricole. Et là, je vous dis, c'est aussi la responsabilité du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, un président n'est pas venu arranger des routes lorsqu'il n'a pas un intérêt à poursuivre. Mais l'État lui-même peut le faire parce que c'est donc son pouvoir régalien. Et puis, troisièmement, maintenant, c'est cette situation de l'économie qui fait assez donc l'extraversie de notre économie. Qui fait que les gens croient qu'il ne faut pas consommer local, mais il faut importer. Donc, voir ce qui vient ailleurs. Il y a du riz ici, mais les gens trouvent mieux d'acheter le riz qui vient ailleurs. Et là, ceux qui travaillent localement se rendent compte qu'ils travaillent presque d'une manière bénévole. Lorsqu'ils se fournissent comme ça, ils mettent de l'argent au retour, ils ne gagnent presque rien. C'est comme ça que nous faisons toujours des recommandations vis-à-vis du gouvernement pour qu'il puisse revoir un certain principe au service spécialisé. Donc, les taxateurs, là, pour qu'ils voient la justice, comment est-ce qu'il faut se comporter? Parce que dans d'autres pays, il y a certains services qui laissent même ceux-là qui viennent pour aider la population. Donc, ils ne sont pas des maïs, des manioc, donc des biens de première nécessité qui manquent dans cette province. Mais
merci beaucoup, Adrien. Vous estimez qu'il y a d'abord la facilité pour les agriculteurs de pouvoir couler leurs marchandises, par exemple en ville, permettre à ce qu'il y ait la circulation de la nourriture, suppression des taxes et tout ce qui peut empêcher à ce qu'ils cultivent de pouvoir travailler, d'être encouragés et comme ça apporter de la nourriture là où on en a besoin. Merci beaucoup Adrien, on retourne ici à Kinshasa. Merci d'être avec nous, Félicien, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capus.
Et cette question de la malnutrition, on en a déjà parlé plusieurs fois. Quand vous regardez, vous verrez que beaucoup de provinces qui étaient des fois autrefois appelées greniers agricoles ne le sont pas aujourd'hui. Et c'est nourri aujourd'hui, on le dit souvent dans l'assiette du Congolais, c'est plus l'extérieur que la production locale. Est-ce que dans ces conditions, on peut arriver à faire face à la question de malnutrition qui touche ces millions d'enfants congolais, Félicien?
Oui, Pierrot, moi je vais vous dire que cette politique-là, chercher toujours des millions, des milliards de dollars pour venir aider les peuples congolais ou les peuples africains n'est pas une bonne politique. Et je pense que l'UNICEF et toutes les autres organisations internationales devraient changer de fusil d'épaule. C'est pas de cette façon-là qu'ils vont continuer à aider le Congo ou l'Afrique après 60 ans d'indépendance. Nous avons des étendues de terre très très fertiles que nous pouvions exploiter, cultiver et avoir l'autosuffisance alimentaire. Et au lieu de venir nous soutenir de ce côté-là, de l'agriculture, de ce côté-là où on pouvait nous amener des équipements, on pouvait venir nous soutenir par tous les moyens pour que nous puissions vraiment être nous-mêmes producteurs de ce que nous avons besoin. Et avoir l'autosuffisance alimentaire, éviter des problèmes des enfants qui souffrent de malnutrition. Mais au contraire, ils vont nous acheter des OGM et des histoires produites ailleurs et qui n'ont même pas la valeur nutritive et nécessaire et on vient nous donner et c'est encore des maladies qu'on vient nous ajouter. Si vraiment ils veulent nous aider, les millions qu'ils ont, qu'ils viennent investir dans l'agriculture, dans notre pays, parce que ça pourra aider et les Congolais et les Africains. S'ils veulent vraiment nous aider, de cette façon, ils devaient nous aider. Ils devaient plutôt nous aider en faisant en sorte qu'ils puissent faire pression sur ceux qui nous dirigent, afin qu'ils puissent gérer le pays dans la bonne gouvernance, afin qu'ils puissent appliquer la bonne gouvernance dans la gestion de la République, afin qu'ils puissent plutôt éviter des injustices sociales qui nous amènent dans des guerres tout le temps, et faire la répartition équitable du revenu national. C'est de ce côté-là qu'ils devraient faire pression sur les dirigeants, et si nous avons la paix dans le pays, si nous pouvons travailler nous-mêmes, nous vivons aider, et avec ce que nous produisons, nous pouvons aussi aider les autres. Mais venir tout le temps dépenser 1 million, 2 millions ou des milliards, acheter des maïs à l'étranger, venir distribuer, et je ne pense pas que ça soit la solution. On a toujours dit que c'est mieux d'apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner chaque jour un poisson. Alors, c'est là où nous devons vraiment interpeller les organisations internationales et l'ONU en général, qu'ils ne sont pas en train d'aider l'Afrique en général et les Congo en particulier, parce que c'est pas ça que nous cherchons. Nous cherchons que nous puissions être nous-mêmes dans l'autosuffisance alimentaire, nous puissions produire, et ce qui nous manque, c'est la bonne gouvernance. Il y avait la bonne gouvernance, nous aurions des routes de recettes agricoles, nous aurions l'agriculture devait être priorité des priorités, et nous avons des responsables qui s'intéressent aux minéraux, qui s'intéressent et à la richesse facile, qui s'intéressent au gain facile, et on a laissé l'essentiel, et les gens sont en train de souffrir de malnutrition et de malnutrition. Donc, c'est là le problème, et il faudra que nous puissions interpeller l'ONU et ces organisations internationales qui viennent pour nous aider.
Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez que la réponse à cette question de malnutrition, c'est pas aussi la mobilisation de fonds pour apporter soit de la nourriture achetée ailleurs, mais ça aurait été mieux de pouvoir renforcer les capacités de la RDC dans la production locale, l'amélioration de la gouvernance, et c'est de cette façon qu'on peut produire et se retrouver dans l'autosuffisance alimentaire. Mais des aides ponctuelles ne peuvent pas résoudre le problème aujourd'hui et permettre à la RDC de faire face à cette question de la malnutrition. Merci beaucoup, Félicien Maître Sonville. Vous êtes acteur politique à Lubumbashi. On sait aujourd'hui que beaucoup de provinces dans notre pays dépendent de l'extérieur pour avoir de la nourriture. Mais quelles sont les solutions concrètes aujourd'hui qui peuvent permettre à ce que la question de la malnutrition soit réglée dans notre pays? Maître Sonville, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pirot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. C'est un sujet qui est très pertinent, puisque pour le moment, Monsieur Pirot, sans vous cacher, la population congolaise est en train de croupir dans une misère criante. Alors, si je dis criante, nous vivons maintenant de l'extérieur. Nous vivons des partenaires traditionnels tels que l'UNICEF, tels que le Programme alimentaire mondial. C'est à ce moment où le gouvernement devait défendre son autonomie, son indépendance. On nous a toujours dit que nous sommes indépendants, nous sommes autonomes, mais il faudrait que cette indépendance et cette autonomie puissent être démontrées par rapport à la misère de la population. Au-delà de ça, M. Pierrot, je dirais ceci. Nous sommes ici au niveau de Lubumbashi. Vous êtes en figure avec moi au jour d'aujourd'hui, un sac de farine de maïs qui revient à 40 000 francs congolais. Chose qui n'a jamais existé ici aussi à Lubumbashi, depuis que je suis né ici à Lubumbashi. Pourquoi l'agriculture n'existe plus? Le nouveau gouverneur qui est venu, qui a été nommé, par qui a été soit élu ou soit nommé, nous a parlé des villages agricoles. Un village agricole inexistant, ce n'est que la terre qu'on donne aux paysans. Et il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de subvention. Comment est-ce que nous pouvons combattre cette malnutrition? Au-delà de ça, M. Firo, nous aussi au Katanga, il y a Kabalo, il y a Moba, il y a Kalemi, c'était des greniers agricoles. Aujourd'hui, il y a une guerre qui est instrumentalisée par le pouvoir, qui ne permet pas à ce que les gens des Kabalo, de Moba et consorts puissent se donner à l'agriculture pour approvisionner les grands centres. Et c'est entretenu par le pouvoir, on ne trouve pas de solution, parce que ça a beaucoup perduré. Les gens vous fuient. Ils laissent leur village, ils laissent leur terre, ils laissent leur champ pour faire un peu de trouver un endroit de là où ils peuvent habiter, en fuyant ces exactions. Au-delà de ça, M. Pierrot, je vous dirais ceci. Il n'y a pas d'initiative de petites et moyennes entreprises au Congo. Rien. Il y a une société au niveau du gouvernement, le Fonds de promotion industrielle. Monsieur Pierrot, nous avons suivi avec vous, sur différentes chaînes, les détournements des fonds qui ont été affectés peut-être à des entreprises minières, soit agricoles, mais ces fonds ont été détournés. Jusqu'à preuve du contraire, nous voulons dans l'intimité. Ces gens-là sont même dans les gouvernements, se retrouvent dans des gouvernements, ils ne sont pas inquiétés. Comment est-ce que ce pays peut aller de l'avant? Les solutions doivent être trouvées d'abord par le gouvernement.
La question de la malnutrition, il faudrait qu'elle soit résolue par le pouvoir public. Et vous donnez l'exemple du maïs au Katanga. Aujourd'hui, un sac qui coûte 40 000, un sac de farine, je crois bien de maïs, 40 000 francs, vous estimez que c'est beaucoup. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'initiative sur le plan de l'agriculture. De beaucoup de zones, que ce soit dans le Tanganyika, il y a des conflits armés, ces conflits qui occasionnent de l'insécurité. Et dans ces cas, c'est difficile que les gens puissent se consacrer à l'agriculture. Il y a le déplacement des populations, mais tout ça, c'est au pouvoir public, au gouvernement central, de trouver des solutions efficaces, d'abord dans l'investissement dans les secteurs de l'agriculture, mais aussi dans la lutte contre l'insécurité qui occasionne les déplacements des populations et qui maintient aussi beaucoup de gens dans cette malnutrition. Merci beaucoup, Maître Sonville Niembo. Vous êtes à Kalima. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot. Bonjour à tout le monde. Pour moi, je vois qu'il y a une avancée pour ce qui concerne la malnutrition. Parce que ici chez nous, M. Pierrot, donc si je remets mes yeux au temps ancien, je vois qu'il y a une avancée. Parce qu'à ce temps-là, le temps ancien, il y avait toute une avenue, tout un cas à l'hôpital général de référence ici chez nous de Kalima. Donc beaucoup d'enfants étaient atteints à ce fléau-là, la malnutrition, et on avait amené beaucoup de qualités, de nourriture, de lin, de ceci, de cela, pour que ce cas soit un peu diminué. Mais en présent, nous constatons qu'il y a un avancé parce que tout le monde se pense maintenant à l'agriculture. Même les commerçants, vous allez voir un commerçant, il donne son argent pour cultiver les champs. Donc nous pouvons dire s'il y avait 100 enfants qui étaient atteints à ce temps-là, mais aujourd'hui, nous pouvons remarquer ou nous pouvons estimer que ça reste peut-être à 17 personnes. Mais pour ce qui est des propositions des gouvernements, je ne vais pas faire des commentaires là-dessus parce que nous entendons tous les premiers ministres, même si nous voyons les taux de dollars comme les précédents qui m'ont précédé, disons lui. Les taux de dollars aujourd'hui, c'est 1250 et les autres. À une autre province, c'est 1300 francs, à une autre province, c'est 1200 francs. Pourquoi tout cela? Parce qu'il n'y a pas la stabilité il n'y a pas de premier ministre qui coordonne, qui va régler tous ces problèmes-là. C'est pourquoi je ne veux pas dire des commentaires à ce concernant.
Merci, merci beaucoup, Niembo. Ouais. Vous estimez qu'à Kalima, beaucoup de choses sont améliorées dans les temps. Il y avait des pavillons qui s'occupaient des enfants mal, qui étaient mal nourris à Kalima, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et là, il y a des initiatives du genre, les gens, ça donne plus à l'agriculture aujourd'hui. Et vous estimez que c'est de cette façon-là qu'il faudrait aborder la question. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Kalima. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous joindre au 081-890-63-80 parce que nous avons des petits soucis des lignes sur 081-890-63-15. Vous pouvez entrer en contact avec Parole aux auditeurs au 081-890-63-80 pour intervenir en direct. Bintou, vous êtes à Kinshasa, Jonathan à Kalinga, on va vous accorder la parole. Nous rappelons encore qu'il y a dans un communiqué de presse publié la semaine dernière, l'UNICEF estime à 2 millions le nombre d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë et sévère en RDC. Pour réaliser sa réponse humanitaire 2017, l'UNICEF lance un appel de fonds pouvant lui permettre de fournir une assistance à usage multiple auprès d'un million de personnes déplacées et accueillies comme réfugiés en RDC. Alors comment arriver à faire face à cette question de malnutrition? Plusieurs propositions dans cette émission. Vous pouvez également intervenir au 081-890-63-80 pour intervenir en direct. Nous allons vous accorder la parole.
Okapi, c'est parti.
Radio Capi célèbre ses 15 ans d'existence le 25 février 2017. Plusieurs activités sont prévues pour célébrer cet événement.
Une exposition photo, des journées portes ouvertes, un tournoi de football avec quelques médias de la place, ainsi que des émissions spéciales aux couleurs de cet anniversaire.
Radio Capi, 15 ans de liberté d'expression.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et comme je venais de le dire, c'est au 6380 que vous pouvez facilement nous joindre pour intervenir. Bintou, vous êtes à Kinshasa dans le Congo central. Merci d'être avec nous. Bonjour Bintou.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Comment on peut arriver à faire face à cette question de malnutrition de millions d'enfants? Quand même, beaucoup de gens estiment que c'est au pouvoir public d'investir dans le domaine de l'agriculture.
Bon, mais je pense que la première solution, c'est de mettre fin à la pauvreté, puisque vous ne pouvez pas trouver une famille riche avec des enfants malnutris. D'abord, c'est un problème lié à la pauvreté. Donc, le pouvoir public doit tout faire pour permettre à ce que le Congolais ait les moyens de vivre en créant les emplois ou en payant mieux ceux qui sont en train de travailler. À ce moment-là, on va réduire la pauvreté. Donc, on ne peut pas finir avec la pauvreté, mais on peut réduire quand même sensiblement la pauvreté. Cela permettra à chaque famille de prendre en charge ses enfants et de les nourrir correctement. Bon, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de mettre fin à l'insécurité. Parce que la plupart des enfants qui souffrent de la malnutrition sont des enfants ici des zones de conflit. Si nous prenons par exemple ce qui se passe actuellement dans la province du Kasaï central, avec le phénomène de guerre là-bas, vous trouvez que beaucoup de familles aujourd'hui sont en brousse. Alors, en brousse, on n'a pas prévu la nourriture pour aller nourrir les enfants là-bas, et ces enfants-là souffrent à cause de l'insécurité. Si vous prenez les poches du côté de l'Est du pays, c'est la même chose. Bon, nous devons faire en sorte que nous puissions mettre fin à l'insécurité, qui va permettre à ce que les parents puissent travailler dans toute l'étude pour nourrir les enfants, et que ces enfants-là ne puissent pas se retrouver sur la rue, ou dans des métiers fixes, c'est une grande insécurité. Et le troisième problème, c'est l'ignorance. Il faut mettre fin à l'ignorance des familles et de la population congolaise. Puisque, en dehors de la nourriture que nous consommons, la nourriture doit être riche en quantité et en qualité. surtout en qualité. Tandis que dans notre pays, vous trouvez que beaucoup de familles se nourrissent généralement pas du nombre, pas de la quantité de la nourriture. Mais cette quantité de la nourriture là n'a pas des éléments nutritifs qui peuvent contribuer à la santé de l'enfant. Alors, il faut permettre à ce qu'il y ait beaucoup de sensibilisation pour informer les parents afin de choisir les aliments qu'il faut donner aux enfants pour que ces enfants-là soient en bonne santé. Mais lorsque les enfants mangent une grande quantité, qui est dépourvue de vitamines, dépourvue de protéines, dépourvue des éléments nutritifs pour voir que cet enfant est en bonne santé, je pense que cela ne réalise pas l'enfant. Alors, voilà les quelques éléments qu'il faut ajouter, en dehors de ce que les professeurs ont déjà ajouté.
Merci beaucoup, Bintou. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'insécurité, mais aussi cette dimension de l'ignorance. Hein. Même quand il y a des familles qui ont accès à la nourriture, mais des fois, les gens ignorent cette question de la qualité. Hein. On s'intéresse plus à la quantité. Cela peut aussi entrer dans le cadre de la sensibilisation. On peut faire face, effectivement, à cette question de la malnutrition. Merci beaucoup, Bintou. Jonathan, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour et bienvenue, Jonathan.
Bonjour et bonjour à tous les amis auditeurs de la radio du Lapin.
On vous écoute, Jonathan.
Oui, je pense que l'UNICEF a entamé une bonne option. C'est une initiative qu'il faut encourager. De lutter d'abord contre la malnutrition qui bat aujourd'hui record dans ces grands pays. Plus de 2 millions d'enfants qui sont dans la zone rouge, c'est vraiment quelque chose de consistant. Et avant ça, on sait souvent le meilleur moyen de prévenir un danger, c'est la prévention d'abord. L'UNICEF devait d'abord commencer par la sensibilisation et aussi mener des actions concrétiser des actions qui vont amener les gens à comprendre la nécessité de la chose. Ce que je voudrais dire aussi que nous ne devons pas nous focaliser sur l'agriculture, nous devons aussi nous focaliser sur l'élevage dans ce pays. Parce qu'on a d'origine végétale et aussi d'origine animale. C'est comme ça.
Il y aura des petits soucis, si vous pouvez vous déplacer, Jonathan, avec Ananga, des petits soucis des lignes, mais vous avez beaucoup insisté sur la prévention de la malnutrition dans la sensibilisation. Il faut enseigner, éduquer la population sur l'agriculture, l'élevage des proximités. D'ailleurs, l'année passée, on a eu un grand débat autour du développement de l'agriculture familiale, en estimant qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau de la famille, des habitudes qu'il faudrait encourager aujourd'hui. Et l'ensemble de toutes ces mesures, ça peut accompagner les grandes actions d'envergure dans la lutte contre la malnutrition. Merci beaucoup, Jonathan. On reste à Kananga, dans la même ville, avec Toko. Merci d'être avec nous, Toko. Bonjour. Toko, vous êtes avec nous. Bonjour. On a des petits soucis avec Toko. On fait un pas à Sindou. Raphaël, vous nous avez contacté. Raphaël, merci d'être avec nous. Bonjour, Raphaël.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Tout à l'heure, notre ami Nyombo qui intervenait de Kalima disait qu'il y a eu quand même des initiatives où les gens prennent conscience de l'investissement dans l'agriculture pour faire face à cette question de malnutrition. Et comment aujourd'hui, à Kindu, par exemple, la situation se présente-t-elle en termes de compréhension ou d'investissement dans l'agriculture?
Effectivement, ici chez nous à Kindu, nous sommes en train de louer l'initiative de PIRAM, qui est un programme intégré sur l'agriculture, qui vient de donner un coup de pouce, la malnutrition continue à se faire entendre dans la province et dans les pays, ce qui est paradoxal. Vous savez, nous sommes dans un pays potentiellement riche en agriculture. Nous égorgeons la deuxième forêt mondiale et le pays est baigné par beaucoup de cours d'eau. Malheureusement, le pays qui a ratifié un certain nombre d'instruments, parmi lesquels les accords de Cotonou, qui exige afin que le budget national puisse prévoir au moins 10% sur le domaine agricole. Mais curieusement, lorsque vous lisez le budget, c'est moins de 1% parfois, ou 2%, et puis lorsqu'on exécute le budget, c'est encore moins que ce qui est prévu. Et c'est ça, la responsabilité revient d'abord à l'État congolais, qui ne sait pas, qui ne se soucie tellement guère, en dépit du fait que chaque fois l'État décrète que l'agriculture est priorité de priorité. Dans la province ici, bon, nous avons reçu plus de 100 tracteurs dans le cadre du transfert de compétences de la part du gouvernement central. Mais ces 100 tracteurs-là ne fonctionnent pas. Ils ont été distribués d'une manière inappropriée, irrationnelle. Ce sont les dignitaires qui ont reçu ces tracteurs. Mais ils sont en train d'être immobilisés. La plupart des moteurs sont utilisés dans des bateaux qu'on sort, et puis voilà le problème. Bon, les petits agriculteurs essaient de faire un effort, mais ils ont des difficultés pour évacuer leurs produits qui moisissent à cause du manque de routes de l'essai agricole. Autant de difficultés qui ne permettent pas à l'agriculture
de pouvoir se développer. Et d'ailleurs, quand vous avez évoqué cette question du budget, rappelons que c'était le protocole de Maputo, où le pays africain s'est engagé à remonter, oui, Raphaël, leur budget jusqu'à 10%. Quelques pays seulement ont fait un effort. Mais alors, cette question des tracteurs, on devait avoir en principe le débat. On a eu déjà 3-4 émissions, on a évoqué les résultats de l'agriculture après le programme de tracteurs. Dommage aussi à Kindu, c'est bon, partout ailleurs, les gens se sont plaints que les tracteurs ont été distribués, mais en fin de compte, on n'a pas eu de résultats. Mais est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il, Raphaël, des actions de sensibilisation, d'éducation de la population pour même encourager les gens à recourir, ne fût-ce qu'à l'agriculture de proximité ou l'agriculture familiale, comme ça a été plusieurs fois évoqué?
Oui, voilà pourquoi j'ai loué beaucoup plus les programmes PIRAM, avec beaucoup de moyens, bien sûr. Il y a quand même d'impact. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une augmentation de la production, surtout du riz, et aussi de la difficulté. Sinon, ni que ce programme-là, on allait assister encore à beaucoup plus de situations gravissimes.
Merci beaucoup, Raphaël. Le programme PIREM, quand même, il faut encourager cela. C'est le genre d'initiative, hein, comme le disait notre ami de Kananga tout à l'heure, avec le programme alimentaire mondial aussi, des intrants qu'il faudra porter. Pourquoi ne pas encourager l'élevage aussi familial? Et voilà autant d'actions. Mais le rôle de l'État dans l'augmentation du budget consacré à l'agriculture est très important. Merci, Raphaël. Dieu merci, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Dieu merci.
Bonjour la radio Kapi, bonjour à tout le monde.
Merci, on est ensemble dans cet échange. Y a-t-il aujourd'hui assez d'efforts considérables à Kisangani dans le cadre de l'encouragement de l'agriculture ou d'investissement pour qu'on arrive à faire face à la question de la malnutrition?
Oui, merci pour la parole que vous m'accordez, monsieur le journaliste. Je pense que mes prédécesseurs vont presque tout dire. Je pense qu'aucun pays ne peut enfreindre une stabilité politique, économique et sociale si son peuple vit dans un état de malnutrition et de famine. Et c'est le cas de notre pays, la République démocratique du Congo. Si les autorités politico-administratives avaient vraiment la conscience de cette phrase, on devrait mettre en premier lieu l'agriculture comme priorité des priorités. Et cet appel des fonds de l'UNICEF pour fournir une assistance, ce n'est qu'une mesure d'accompagnement qui devrait être en amont accompagnée par une mesure de prévention. Nous appelons donc le gouvernement à répondre à cet appel des partenaires. Alors, à ce qui concerne la province de la Chopo, quand nous suivons au niveau des médias locaux ici, il me semble qu'il y a vraiment des mesures d'accompagnement par la coopération technique belge qui a pris presque tout le territoire pour la réhabilitation vraiment des routes et des défenses agricoles avec des semences. Il y a quelques avancées vraiment à ce qui concerne la province de la Chope. Voilà un peu mon point de vue.
Merci beaucoup, Dieudonné, de nous avoir appelé de Kisangani. Et là, vous avez évoqué les efforts de la CTV, la coopération technique belge, pour accompagner la province de la Chope dans la réhabilitation des routes et des défenses agricoles, mais la distribution aussi des semences. Cela peut contribuer à faire face à cette question de la malnutrition. Vous pouvez nous joindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, au 081-890-63-80, 081-890-63-80 pour intervenir en direct. Nous allons à Lubumbashi, Gaston, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, M. Pierrot.
Et tout à l'heure, Maître Sonville, qui est un acteur politique, disait que la difficulté aujourd'hui des cultivés dans les Katanga est à la base aussi de la malnutrition, l'insécurité, alors qu'on est tous tournés vers l'extérieur pour remplir nos assiettes. Mais alors, aujourd'hui, comment on peut arriver vraiment à faire face à cette situation? Vous avez suivi Raphaël qui parle du paradoxe, vu la potentialité agricole que nous avons et autant de personnes qui souffrent de la malnutrition. Comment on peut y arriver? Alors, Gaston.
Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Moi, je suis au Katanga ici depuis presque deux semaines. Je suis contre tous ceux qui disent qu'il faut s'appuyer sur les programmes d'accompagnement, PIREM, UNICEF. Je ne suis pas d'accord avec ça. Monsieur Pierrot, comme mon professeur a dit, au Katanga ici, les sacs de foufou coûtent aujourd'hui 40 000 francs. Et vous constatez que les gens sont vraiment déstabilisés. Ce que je ne peux pas comprendre est que je prends l'exemple de la province de Katanga dans laquelle je me trouve maintenant. Comment toute une province peut dépendre d'un pays étranger? Le foufou qui est consommé ici vient de la Zambie. Mais ça, c'est inacceptable, inacceptable, M. Pierrot. Et la petite enquête que j'ai menée pendant ce temps que je suis ici est que le chef de l'État, l'innocent pour moi, a envoyé plus de 700 tracteurs ici afin que les gens puissent cultiver. Mais ces tracteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien produit. Ces tracteurs, dans les temps de l'ancien fameux gouverneur du Katanga, ces tracteurs se trouvent dans des maisons des gens. On n'a pas cultivé, il n'y a aucun programme national ici pour la culture. Mais je vais appuyer mon argument en parlant des impunités. Quand vous devez envoyer 700 tracteurs dans une province pour que les gens cultivent et que les gens ne cultivent pas, il faut quand même un suivi de ces tracteurs. Vous parlez de mesures d'accompagnement. On accompagne quelqu'un, c'est quand lui met en action. Ça veut dire que l'acteur principal, c'est le gouvernement congolais d'abord. Vous pouvez être accompagné car d'abord nous sommes des acteurs principaux. Mais c'est Pierrot Katanga ici, je le suis présentement, ça m'étonne. Je suis dépassé de réaliser que la quasi-totalité de la consommation ici, du foufou, vient de la Zambie. Et que les Katangais ici ne font rien. C'est comme ça que l'ancien gouverneur Moïse était célèbre ici. Parce que bon, avec ce chance, ce partenariat avec la Zambie, on ne sait pas comment il est fait. Il a mis toute une province à la dépendance. Je parle avec certaines autorités ici qui m'ont rassuré qu'à son temps, le chef de l'État avait envoyé 700 tracteurs ici pour des programmes. On devait donner ça aux gens qui ont des professions pour qu'ils y vont. Et en retour, ces gens devaient donner en fait la semence au gouvernement. Et on devait mettre la semence au fond de la famille ici. Aujourd'hui, ici, c'est vraiment les cris. C'est les cris, le gouverneur KZND. Il est en train de se battre pour essayer de trouver la solution à ces problèmes, alors que il y a la forêt au Katanga, les gens peuvent cultiver ici. Moi, je ne voudrais pas qu'on s'appuie sur les mesures d'accompagnement. Je ne voudrais pas qu'on parle de l'UNICEF, qu'on parle du PIREM. Non. Nous devons avoir nos propres programmes d'agriculture. C'est ça mon point de vue. Les Katanga doivent cultiver. Ils ne doivent pas dépendre de la Zambie. Voilà mon point de vue. Donc, le gouvernement Moïse n'a pas prévu une telle politique ici pour la production locale. Il n'en a pas prévu. Il a mis les Katanga dans la dépendance totale de la Zambie. Ce qui est inacceptable. Je ne crois pas, je ne vois pas en quoi il était célèbre. Je ne crois pas. Donc, il était célèbre parce que lui, il bloquait la machine et c'est lui qui avait la clé pour le bloquer en Zambie. Et les informations nous trouvent ici que nous pouvons tirer des Zambie. Donc, c'est pas vrai. Vous trouvez ça? C'est anormal, ça, c'est vraiment anormal.
Alors, rappelons quand même que le programme total de tracteurs Gaston, c'était 900 qui ont été distribués à travers le pays. Alors, les Katanga n'auraient pas reçu, je crois, 700 tracteurs seulement pour les Katanga, parce qu'il y en avait 900 pour l'ensemble du pays. Il y en a eu presque dans chaque province, le Bandundu, le Kasaï dans le temps. Ça a été presque distribué partout. Mais du moins, quand même, ce que vous évoquez, c'est très important, la dépendance totale de l'extérieur pour pouvoir vivre. C'est ça le paradoxe avec le Katanga, qui est aussi une province la plus agricole, si on pouvait quand même le dire ainsi. Mais il y a aussi ces cas dans le sens d'un programme cohérent sur l'investissement agricole. Mais vous avez souhaité qu'on ait quand même un suivi, qu'on sache qu'est-ce qui est arrivé avec tous ces tracteurs. Quand vous écoutez à qui vous
voilà,
on dit, Oui, à Kindu, on dit la même chose, que les moteurs même de ces engins ont été utilisés pour faire tourner des bateaux. Au Kassai, on a parlé la même chose. À Kisangani, l'autre fois, on nous a dit que les tracteurs étaient en train de transporter des briques de matériaux de construction. À l'école, c'est la même chose.
Les tracteurs sont dans des maisons déjà ici. Voilà. Les tracteurs sont dans des maisons déjà ici.
Il faut à un certain moment.
Dans ce programme, voilà. Nous sommes là pour l'appuyer. Nous pouvons nous constituer en commission pour faire le suivi.
Voilà, qu'on dise quand même qu'est-ce que ces tracteurs ont fait. Et si c'est là un produit quoi à travers le pays. Merci beaucoup Gaston de nous avoir appelé de Lubumbashi. Je rappelle qu'il y a la question de la malnutrition au centre de notre échange avec ces communiqués de presse publiés la semaine dernière par l'UNICEF qui estime à 2 millions le nombre d'enfants qui souffrent de la malnutrition aiguë et sévère en RDC. C'est plusieurs pistes de solutions dans cette émission où beaucoup estiment que la réponse n'est pas dans les aides qui viennent de l'extérieur, mais c'est plus dans l'amélioration de la gouvernance, le programme dans l'investissement agricole, la sensibilisation et l'éducation de la population. Voilà autant des points de vue de nos auditeurs. Vous pouvez aussi intervenir en nous appelant au 081-890-63-80. Et vous pouvez aussi émettre votre point de vue autour de cette question. Et Bintou de Kimpessé disait tout à l'heure qu'il y a aussi cette question de l'ignorance au sein de la population sur la qualité de la nourriture, parce que beaucoup de gens confondent aujourd'hui la quantité et la qualité, mais s'il y a ce travail de l'éducation, même auprès de ceux-là qui peuvent cultiver, qui peuvent avoir accès à la nourriture, ceux qui sont dans les milieux où, qui luttent quand même contre la pauvreté, ils peuvent aussi être éduqués de savoir quels sont les choix qu'il faut opérer aujourd'hui quant à la nourriture. Et cela peut résoudre le problème. 081-890-63-80 pour intervenir en direct.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Parole aux auditeurs.
Et nous avons Panzou qui nous appelle du Nord Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs.
Et vous êtes précisément dans quelle ville?
Je suis dans la ville de Badolite.
Vous êtes à Badolite, c'est pas dans la province du Nord Kivu, excusez-nous pour cette petite confusion. Et alors, comment on peut arriver à résoudre cette question à Badolite et Panzou?
Oui, moi je pense que le problème de la malnutrition au Congo a sa solution dans l'agriculture. Mais néanmoins, je pense que si vous avez fait ça, ça ne sera pas vraiment important parce qu'il y a beaucoup de mes précédents qui ont déjà abordé ce sujet. Mais moi, j'aimerais tout simplement aborder le cadre de l'orientation des fonds de l'UNICEF. Là où l'UNICEF est en train d'orienter cet argent. Moi, je pensais qu'il fallait peut-être faire tenir compte des orphelinats qui se trouvent aussi dans nos milieux ruraux, parce que la plupart des organismes qui se trouvent au Congo, ceux qui sont au niveau ruraux, ne sont pas comptés, ne sont pas pris en compte. Et alors même que ce sont là les orphelins qui tiennent vraiment, qui soutiennent vraiment les enfants les enfants malnutris à pouvoir vraiment se procurer de la nourriture d'une manière permanente. Alors il fallait vraiment orienter cet argent dans cette optique pour essayer un peu de renforcer les orphelinats. Ça sera une bonne manière de résoudre un peu ce problème de malnutrition. Voilà un peu ma contribution.
Merci beaucoup, Panzou. Vous êtes à Badolité. Et la solution pour la question de la malnutrition se trouve dans l'agriculture, mais vous aurez aussi souhaité qu'au niveau de l'UNICEF, par exemple, quand il y a des fonds, qu'il y ait des efforts qui soient fournis pour soutenir des orphelinats qui s'organisent en milieu ruraux, là où il y a beaucoup d'enfants qui sont malnutris, mais malheureusement, qui ne sont pas assez pris en charge. Et ça, c'est un plaidoyer pour vous auprès de l'UNICEF. Merci beaucoup. Fiston, vous êtes à Kindou. Merci d'être avec nous, Fiston. Bonjour.
Bonjour, bonjour, la radio Capi.
Comment vous écoutez, Fiston?
Ça, c'est un sujet très délicat pour la malnutrition au niveau du pays. Mais ici, chez nous, au Maniema, par rapport au sujet, le tracteur, on avait distribué. Il y a de jeunes gens qui ont des initiatives royales pour l'encouragement des cultures. Maintenant, ici, chez nous, au Maniema, on nous a distribué les tracteurs tels que nos procédures nous dit. On a distribué le tracteur, mais le tracteur n'est pas arrivé à la destination ou bien au but, en fait. Le tracteur est fait partager aux députés. Nous avons quelques, le rang social, on a regardé la catégorie de gens. Maintenant, on ne sait quoi faire, nous, la population. Nous nous acceptons, nous sommes derrière la radio Capi qui nous aide de présenter notre larme auprès des gouvernements. Les tracteurs sont distribués d'autres couches. Ces couches-là font leurs activités privées. Alors, nous sommes en train de plaider seulement pour les zones GD. On reste seulement en train d'écrire par-ci, par-là pour qu'on ait quoi de. Qu'on nous aide. Maintenant, nous, le gouvernement en soi, quand tu lui donnes quelque chose, il ne fait même pas le suivi.
Mm-hmm.
Et pourtant, il y a des jeunes gens ici qui traînent, ils ont le projet en cours, mais là, ils n'ont même pas de financement. On ne sait pas quoi.
Et cette question est très, très importante. Chaque fois quand la question des tracteurs est évoquée, Fiston, on le dit, ça a été donné aux députés provinciaux, aux députés nationaux, d'autres fois même pris par des ministres provinciaux ou des acteurs politiques qui n'avaient pas des activités agricoles, ceux qui n'avaient pas d'initiatives, alors qu'il y a des coopératives, des ONG, comme vous l'avez dit, des jeunes qui ont des initiatives, mais qui malheureusement ne sont pas financés, n'ont pas bénéficié de ces tracteurs. Et c'est comme ça que la plupart des pressions ont été données, mais à fin de compte, on n'a pas des résultats aujourd'hui. Mais vous auriez aimé que le gouvernement fasse le suivi. Gaston le disait tout à l'heure à Lubumbashi pour savoir, mais on a donné des tracteurs, ça produit quoi, qui a reçu quoi, et ça a joué quel rôle la relance de l'agriculture et la lutte contre la malnutrition, toutes ces questions qui devaient être en principe être résolues par le gouvernement qui avait initié ces projets et distribué ces tracteurs auprès de provinces. Merci beaucoup, Fiston. De Kindou, à Kikuit, c'est Jean des Dieux qui est avec nous. Bonjour Jean des Dieux.
Oui, bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous ceux qui sont présentement branchés à la radio Capi.
Est-ce qu'il y a-t-il des efforts aujourd'hui dans les Kouilou, dans le cadre de que ce soit de l'éducation de la population, de la sensibilisation, pour faire face à cette question de la malnutrition, Jean des Dieux?
D'accord, merci beaucoup. Dans notre province, particulièrement du Kouilou, il y a quand même des avancées par rapport pour faire quand même un effort et lutter contre la malnutrition. Par exemple, la Caritas Congo, des fois, il y a des périodes où il y a une permanence des produits agricoles où on pouvait vendre à un prix raisonnable pour que ça leur puisse aider quand même un nombre de personnes à un prix raisonnable. Mais je sais que je vais intervenir vraiment à deux volets par rapport aux sécurités alimentaires et pour lutter contre la malnutrition. Nous ne pouvons pas parler qu'il y a une malnutrition qui touche les enfants de moins de 5 ans, parce que vous savez, pendant que notre pays souffre de la crise politique et où il y a l'insécurité partout, même si vous donnez quelque chose et à manger à un enfant qui n'a pas un peu ou dans son région, il y a qu'un problème de guerre où les enfants ont fui leur ville pour aller se cacher dans la forêt. Peu importe tout ce que vous pouvez donner, cela ne pouvait pas donner la bonne santé aux enfants. C'est pourquoi je vais souvent intervenir d'une façon générale, surtout dans des zones où il y a conflit de guerre, parti à Kasaï, à Nouran, et au Nord Kivu, à l'Est, là-bas, les enfants n'ont pas vraiment la paix. Ils souffrent dans le forêt parce qu'ils ont fui la guerre dans leur ville. Alors, même s'ils ont l'alimentation correcte, les enfants ne doivent pas bien grandir. Vous verrez qu'ils commenceront toujours et à souffrir des problèmes de la malnutrition.
Et c'est que vous l'avez dit, Jean des Dieux, parce qu'on doit permettre aussi aux deux derniers auditeurs d'intervenir. Vous estimez qu'il y a des efforts, mais aussi longtemps qu'il y aura une persistance des crises politiques, d'insécurité, des conflits armés, même si ces enfants ont la nourriture en abondance, mais quand ils ne savent pas vivre en paix, quand ils ne savent pas vivre sous les toits paternels, ça sera difficile qu'ils puissent avoir une bonne santé. Merci beaucoup, Jean des Dieux. On va écouter les deux derniers, Mabélé qui nous appelle des Goma et Gilbert qui est en Bandaka. Mabélé, merci d'être avec nous dans cet échange en 45 secondes, votre point de vue autour de cette question de malnutrition. Bonjour et bienvenue. Mabélé, vous êtes avec nous? Bonjour.
Je suis avec vous, bonjour.
Et on vous écoute rapidement, oui. Mabélé, oui.
La parole est que vous m'êtes accordé.
Oui, Mabélé, vous êtes à Goma. Et là, si vous pouvez directement y aller dans 40 secondes hein, pour présenter votre point de vue, le temps qu'on termine avec Gilbert.
La malnutrition est à la base de plusieurs facteurs.
Alors, si vous diminuez, en attendant que vous puissiez diminuer le volume de votre poste récepteur Mabélé, sinon on aura des difficultés pour mieux communiquer. Nous écoutons Gilbert qui est en Bandaka. Gilbert, vous êtes avec nous. Bonjour, Gilbert.
Oui, je suis avec vous, monsieur le journaliste.
Et comment aujourd'hui on peut arriver à faire face à cette question, oui?
Que j'interviens en retard, parce que moi je fais partie prenante de la distribution de tracteurs au niveau de Kinshasa. J'étais compté à l'époque de M. Noël Botakil, que j'ai salué en passant. Mais l'expérience que nous avions à Kinshasa, lorsque nous avions reçu les tracteurs étaient pour la province. Et nous avions monté des critères d'éligibilité avant d'avoir les tracteurs à Kinshasa. On demandait. Il faut avoir au moins 300 hectares de la terre et avoir des documents de l'État et en plus avoir géré au moins un tracteur dans votre vie. Et en plus, nous avions constitué une confédération des agriculteurs et qu'avant d'avoir le tracteur, vous devez donner un fonds de roulement de 5 000 $.
Mais est-ce que ces critères ont été respectés, Gilbert? Est-ce qu'on avait respecté ces critères pour diffuser rapidement?
Oui, on avait respecté parce que nous avions les critères d'éligibilité. L'élection est passée au niveau de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, les gens sont venus, nous avions fait une confédération, nous avions ouvert un compte en banque et les gens...
Mais est-ce que, Gilbert, il y a plus de résultats à Kinshasa du fait que les tracteurs ont été distribués, malheureusement?
Excusez, il y avait des résultats parce que la province même avait même son et avait plus de 100 hectares que nous avions produit en 2009.
Merci beaucoup Gilbert, on pourra peut-être revenir prochainement avec vous comme vous avez participé à Kinshasa dans cette question de discussion des tracteurs. Merci à toute l'équipe de production des paroles aux auditeurs. Sylvain Matondou était à la mise en onde et Jérôme Yombo a assuré la réalisation de la coordination de ce magazine que Pierrot et la Meiji vous a présenté sous la supervision de Martin Seboujangwe. On se retrouve demain pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Merci, bonne journée chez vous, au revoir.